Donc trois sources de pouvoir, je vous le disais tout à l'heure. La première, c'est le pouvoir, si vous voulez, légal, c'est le pouvoir légitime, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui est dirigé à la fin de la guerre par quelqu'un qui s'appelle Ben Youssef Ben Khedda, qui est sur la photo du bas, et pour lequel j'ai choisi une image de son arrivée à Alger, tout de suite après le référendum d'autodétermination, entre le 3 et le 5 juillet 1962. Le GPRA a été inventé, créé à partir de 1958 et c'est lui théoriquement qui est l'organe de gouvernement du camp algérien, du côté algérien. Le problème c'est qu'on sent déjà très fortement à partir du congrès de Tripoli qu'il y a une deuxième source de pouvoir qui n'a pas du tout envie de céder le pas, qui est l'armée. L'armée dirigée par quelqu'un dont vous avez la photographie en haut à gauche qui est Houari Boumediene. Colonel de l'armée algérienne, de l'armée nationale, pardon, de l'armée de libération nationale, la LN, et qui représente une force de plusieurs milliers d'hommes située à la fois du côté marocain et du côté algérien, du côté marocain d'un côté et du côté tunisien de l'autre, à l'extérieur des frontières, puisque à la fin de la guerre, les frontières ont été fermées et rendues extrêmement étanches par les forces françaises. Donc, deux sources de conflits possibles, ou deux sources de pouvoir déjà. Et puis il y a une troisième source de pouvoir possible qui n'est pas représentée sur les images que je vous ai présentées, tout simplement parce qu'elle n'a pas un seul visage. La troisième source de pouvoir, la troisième force qui compte vraiment, c'est une force qui est à l'intérieur du pays et qui est représentée par les maquis. Les gens qui, malgré la fermeture des frontières, malgré les bombardements, malgré le napalm, malgré la répression, s'est maintenue jusqu'à la fin de la guerre et représente elle aussi plusieurs milliers d'hommes selon les régions. Donc les maquis, représentés par des autorités locales qu'on appelle les wilayas, avec des leaders qui sont mieux connus par la population, qui sont plus proches de la population et qui sont donc populaires et qui bénéficient donc d'une légitimité considérable, la légitimité d'avoir combattu sur le territoire national durant toute la période de la guerre et d'être parvenu à se maintenir. Ces wilayas, ces hommes des maquis, ces maquisards, ils ne sont pas du tout d'accord pour céder le pouvoir. Alors, ils veulent bien, à la rigueur, le céder au gouvernement provisoire, mais ils ne veulent pas du tout le céder à l'armée de l'extérieur. Et en particulier, parmi les wilayas qui vont résister le plus longtemps, vous en avez deux que vous voyez sur la carte. La première, c'est la toute petite wilaya 3 qui est située juste sur la côte au nord de l'Algérie, qui représente la région de Kabylie. Et la seconde, c'est la wilaya 4 qui représente la région de l'Algérois, qui, elles, vont continuer à se défendre très tard jusqu'au mois de septembre, en tout cas pour la wilaya 4, plus longtemps encore pour la wilaya 3. Elles vont continuer à résister à l'arrivée de l'armée de libération nationale. Donc, trois forces de pouvoir, vous imaginez bien que ça ne simplifie pas du tout notre problème, et c'est ça qui est en quelque sorte l'origine de la crise de l'été 1962. Alors, il faut que vous imaginiez que l'essentiel de l'armée des frontières est situé à la frontière tunisienne. De ce côté, à l'extérieur de la frontière, qu'évidemment, il n'est pas du tout question que cette armée des frontières ne rentre avant le mois de juillet. Ça fait partie des accords d'Évian. Ni le GPRA, ni l'armée des frontières ne rentrent avant le moment de l'indépendance. Sinon, les choses auraient été encore plus compliquées avec la présence de diverses forces sur le territoire. Mais à partir du mois de juillet, deux choses se passent. La première, c'est que le GPRA se rend directement par avion et atterrit à Alger avec une liesse populaire absolument inimaginable. Ben Khedda, il connaît son moment de gloire en sillonnant Alger en voiture. Enfin, il y a vraiment un moment de très grande euphorie et de soutien populaire très grand pour le gouvernement provisoire. Pendant ce temps, l'armée des frontières, elle n'a pas question qu'elle rentre en avion. Il faut qu'elle traverse le pays. Et donc, il faut qu'elle traverse le pays à partir de la frontière tunisienne jusqu'à Alger, en évitant le plus possible les embûches, c'est-à-dire en évitant le plus possible les wilayas qui ne sont pas du tout en faveur de l'armée de libération nationale. Donc par exemple, une partie du jeu, ça va être de passer bien au sud de la wilaya 3, ici, parce qu'on sait très bien que si on passe en wilaya 3, c'est une boucherie. Et puis on attend un peu à l'entrée d'Alger. Parce qu'on sait aussi que la Wilaya 4 n'est pas favorable et il faut plusieurs jours pour que les pourparlers et les démonstrations de force aient lieu entre Wilaya 4 d'un côté et armée de libération de l'autre, avec la population algéroise, des moments de manifestation très fortes où les gens descendent dans la rue avec pour slogan « Sab'a snin barakat »« 7 ans, ça suffit ». Vous n'allez pas ajouter la guerre civile encore à la guerre de 7 ans que nous venons de connaître. Sur le chemin de cette armée de libération nationale, en différents endroits, vous avez des gens qui s'allongent au milieu de la route pour essayer d'empêcher les chars d'avancer. C'est-à-dire que la population se rend très bien compte que c'est un moment crucial et que les gens sont prêts à se battre, et se battent d'ailleurs dans certaines localités, notamment Bogari, que vous avez sur la carte, qui fait l'objet d'une des grandes batailles de cette période, entre la Wilaya 4 d'une part et l'armée de libération nationale. Alors pour pousser plus loin ce conflit, l'association se crée entre quelqu'un qui aurait pu être proche du gouvernement provisoire de la République algérienne, Ahmed Ben Bella, qui devient assez rapidement dans cette période le personnage le plus populaire. Pourquoi il devient populaire? Notamment parce qu'il y a beaucoup de photos de lui qui circulent, notamment parce qu'il y a un travail de propagande, notamment parce qu'il est jeune, radieux, qu'il parvient à se mettre un peu en avant à chaque fois qu'il s'agit de rencontrer, de saluer l'armée de libération. C'est souvent lui qui se met en avant et qui parvient à créer le lien avec Boumediene. Et cette association de deux personnages, c'est ça qui va emporter le morceau dans la guerre civile. Les deux hommes, avec une partie de l'état-major, se réfugient à Tlemcen. Les membres du gouvernement provisoire de la République algérienne se réfugient à Tizi Ouzou. Et progressivement, par peur précisément que la guerre civile n'éclate sur tout l'ensemble du territoire, Ben Youssef Ben Khedda va faire marche arrière et finir par céder le pas devant le groupe de Tlemcen et donner en quelque sorte le pouvoir à l'armée de libération nationale, avec comme figure civile, si vous voulez, Ahmed Ben Bella, qui deviendra par la suite le premier président de la République algérienne. Donc vous voyez comment ces choses-là sont complexes. Ça n'est qu'au mois de septembre que vraiment l'armée de libération nationale peut rentrer dans Alger, qu'elle peut faire pièce aux hommes de la Wilaya 4, et que ce clan formé de Boumediene pour l'armée et Ahmed Ben Bella pour les civils l'emporte et s'installe dans la capitale. Et en même temps que tous ces événements ont lieu, les mythes se créent, les histoires se créent. On voit déjà quels vont être les grands traits de l'histoire de la guerre. Et beaucoup d'entre elles se créent dans le feu de 1962. Vous avez, je reviendrai sur ces images dans un instant, on crée des façons de raconter pour légitimer le pouvoir qui est en train de l'emporter. C'est vraiment le clan Boumediene Ben Bella qui crée aussi un certain nombre de ces mots d'ordre. Le plus connu, c'est sans doute un seul héros, le peuple, qui pour le coup est lancé par le GPRA pour essayer de couper l'herbe sous le pied de Ben Bella, en disant non, on ne peut pas avoir une figure qui va nous représenter. C'est le peuple qui a gagné l'indépendance, c'est donc une indépendance qui doit être pour lui. Et malgré la victoire de Ben Bella, ce slogan va toujours rester. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les gens l'utilisent pour dire il n'y a pas une figure ou il n'y a pas deux ou trois figures qui vont nous représenter. C'est le peuple qui a mené la guerre depuis le début. Ce qui n'est pas du tout évident si on regarde le nombre de personnes qui suivaient le FLN en 1954. Mais l'histoire se crée ainsi. C'est le peuple qui fait la révolution. Deuxième élément mythique, c'est la sacralisation de la lutte armée. L'idée que vraiment, depuis le début, on aurait dû savoir qu'il ne pouvait y avoir que la lutte armée comme solution pour obtenir l'indépendance, et que tous les gens qui ont tenté les autres solutions, qui ont tenté de faire de la politique, qui ont tenté de proposer d'autres issues pour sortir de la colonisation, ces gens-là, non seulement avaient tort, mais presque c'était des traîtres. Ils étaient vraiment dans le faux absolument. Ils n'avaient rien compris et ils n'étaient pas du tout suffisamment radicaux. En même temps qu'on a la sacralisation de la lutte armée, on a une sacralisation des martyrs. La commémoration permanente, le fait que le fondement de la République, ça soit le sacrifice des martyrs et que donc leur nom, leur photographie, leur souvenir va devoir être commémoré en tout temps et en tout lieu jusqu'à aujourd'hui. Un tout petit exemple de ça, et vous allez très bien vous rendre compte du problème, la ville d'Alger est une ville dont quasiment toutes les rues portent des noms de martyrs. Quasiment toutes les rues de cette ville. Alors une fois que vous avez fait le tour de quelques personnalités extrêmement connues, vous sombrez dans des noms de gens que personne ne connaît, enfin qui sont des martyrs tout de même inconnus. Et il y a vraiment un poids très très fort, omniprésent, de ces commémorations de martyrs dans la vie publique, dans l'espace public, dans les noms des lieux, des choses, etc. Autre élément mythique qui se construit déjà dans cette période-là, l'idée que il y a une filiation presque magique qui regrouperait différents partis nationalistes les uns à la suite des autres et ils seraient tous héritiers les uns des autres. Ça commence avec l'étoile nord-africaine en 1926, ça se traduit ensuite par le parti du peuple algérien, ensuite par le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, et après ça se poursuit avec le FLN, et c'est là qu'on connaît l'apothéose. Ce que ça veut dire, c'est que tous les gens qui ne sont pas dans ce droit fil-là, bien délimité, ben ces gens-là aussi, ils sont pas, c'est pas des bons nationalistes, quoi. C'est, bon, peut-être c'est des patriotes, à la rigueur, mais il y en a quand même, ça, eux aussi frisent la traîtrise, et cette accusation de traîtrise, elle est très fréquente et elle vient très très facilement. Ils n'étaient pas, ces gens-là, dans le bon combat. Le fait qu'ils aient été nationalistes, ça ne change rien du tout. Hein. C'est nié, mis de côté, on ne veut pas en entendre parler. Et donc parler de partis politiques qui ne font pas partie de cette lignée un peu magique, c'est parler de gens qui ont perdu symboliquement, ils ont perdu. Ils n'ont pas eu raison à la fin, ce n'est pas eux qui l'ont emporté. Dernier élément de mythe, c'est le fait que 62, c'est l'année zéro de l'Algérie. Qu'on n'hérite rien, on n'hérite de rien, on ne récupère rien du régime colonial. Et d'ailleurs, 1962, dans cette version-là de l'histoire, c'est la renaissance, ou ça serait la renaissance, de l'État de 1830. En quelque sorte, la colonisation, c'est une sorte de parenthèse, et on repart à zéro. On ne garde rien. Année zéro, rupture totale, confirmée par le sacrifice, par le sang, par la douleur, etc. Un truc très, très doloriste dans cette façon de concevoir l'histoire. Et c'est là-dessus que je voudrais embrayer sur... je vais revenir sur Ben Bella tout à l'heure. Construire le nouvel État, l'Algérie année zéro, quelques éléments de ce qui se passe en 1962 pour l'Algérie et quelques questions qui se posent. C'est 1962, vous avez des Français d'Algérie qui quittent en très grand nombre et il faut construire un État et on sort de cette année et demie de guerre. C'est vrai qu'il faut recommencer avec très peu de choses. Il va falloir, par exemple, trouver des fonctionnaires. C'est un moment où certains employés administratifs descendent dans les quartiers pour démarcher les familles, pour leur demander si leurs filles qui ont fait des études peuvent pas venir être secrétaires de la mairie ou accomplir telle ou telle tâche administrative. Accessoirement, c'est un moment, du coup, où les femmes sortent beaucoup pour travailler parce qu'il n'y a pas de choix. Voilà, il faut. Pour être fonctionnaire également, vous avez des personnes qui ont émigré vers la France, ou les enfants d'émigrés vers la France, qui font le choix de revenir pour servir. Parce qu'à un moment, il faut construire, il faut des compétences. Il faut, celui qui sait lire est tellement rare qu'il doit apporter sa compétence à l'État en train de se construire. C'est le moment aussi où viennent des coopérants, où viennent des personnes que l'on appelle des pieds rouges, qui viennent par conviction, parce qu'ils ont l'impression de venir aider un État socialiste, un État ami. Et un des miracles de cette année 1962, c'est le fait que malgré le départ massif des enseignants français, la rentrée de 1962 se fait à peu près. Elle fonctionne. Elle fonctionne grâce au fait qu'il y a des tas de gens qui viennent pour travailler, apporter leurs compétences. Et nécessité faisant loi, les programmes scolaires n'ont pas bougé. Notamment les programmes d'histoire, ils n'ont pas changé pendant l'été. Les gens étaient trop occupés à faire la guerre civile pour écrire de nouveaux manuels scolaires. En même temps, beaucoup de ces gens qui viennent enseigner, ils enseignent pas forcément dans les lignes du programme. Hein. Beaucoup sont des militants communistes. Ils viennent avec avec une autre forme d'histoire, avec d'autres événements clés. Mais la rentrée se fait. Construire un État, c'est construire des institutions. Élire une assemblée nationale constituante en septembre 1962 sur des listes uniques. On n'est pas du tout dans un système démocratique. Là, le but, c'est vraiment de faire élire les listes du FLN, FLN version Boumediene Ben Bella, une assemblée nationale qui doit déterminer la constitution. Et il y a tellement urgence que, vous savez, quand on a une assemblée, normalement, la première chose qu'on fait, c'est de la doter d'un règlement, qu'on sache comment elle va marcher, cette assemblée. Là, il n'y a pas le temps. On décide qu'il n'y a pas le temps, il faut directement passer au cœur du problème qui est la Constitution. Donc on fonctionne pendant les premières semaines sans règlement. Alors sur la base de quoi est-ce qu'on fonctionne quand on n'a pas de règlement ? Ben, on fonctionne sur la base des habitudes anciennes. Beaucoup des gens, pas tous, hein, mais une partie des gens qui sont élus en septembre 1962 avaient déjà été élus avant l'indépendance dans les assemblées à l'époque coloniale, et ils ont acquis une expérience, un savoir-faire. Et souvent, ils disent, quand on lit les débats, souvent ils disent il est de tradition que tel parle avant tel, il est de tradition qu'on fasse comme ci. Donc ils ont quand même derrière eux un bagage, ils ont quand même derrière eux des habitudes qu'ils réutilisent dans le cadre de l'organisation des institutions nouvelles. C'est cette Assemblée nationale constituante qui nomme le gouvernement d'Ahmed Ben Bella, qui définit donc la Constitution, qui finit, je vous rassure, par se donner un règlement intérieur quand même, et qui donc procède aux premières étapes de la construction des institutions algériennes. On part, dit-on, de zéro. Il faut donc se définir, il faut donc déterminer qui l'on est. Qui l'on est comme Algérien, vivant dans une république algérienne. Et là, il y a deux processus qui sont concomitants. Le premier, c'est une sorte de définition de soi par les pieds. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui repartent. Il y a des gens qui revendiquent d'être Algériens. Il y a des pieds noirs qui quittent à cause de la violence de l'OAS, à cause de la violence contre eux à Oran le jour de l'indépendance, mais qui ne se sentent pas de vivre en tant que ce qu'ils sont dans cette Algérie indépendante dans laquelle ils ne vont pas se reconnaître. Parmi les gens qui partent également, beaucoup de harkis, beaucoup de gens qui ont été... qui ont travaillé avec l'armée française, avec beaucoup de cas également où ceux qui ne partent pas sont victimes de violences et de massacres. Mais un certain nombre d'entre eux quittent aussi des gens qui ont été victimes des violences internes à l'intérieur du camp nationaliste, notamment ceux qui ont été des partisans de Messali Hadj. Vous avez des gens qui partent dans les derniers jours avant l'indépendance et dans les premiers jours de l'indépendance, qui fuient de peur d'un certain nombre de représailles, et je vous le disais tout à l'heure, le retour de quelques émigrés. Se pose donc très vite, dès le début de 1963, la question de la définition légale de soi, avec un très long débat qui a lieu à l'Assemblée nationale constituante, qui est intéressant parce qu'il pose vraiment la question de 62 et de la définition de ce qu'on est. S'opposent deux versions. Une version qui consiste à dire que les gens qui choisissent d'être algériens devraient pouvoir l'être, et qu'en particulier les Français qui font le choix de rester et font le choix de devenir algériens, en particulier ceux qui ont combattu avec le FLN, ça leur donne le droit absolu à la même nationalité que tout le monde. Et une autre version, beaucoup plus ancrée sur l'identité arabe et musulmane, qui est celle qui finit par s'imposer, qui consiste à dire qu'on ne peut pas les accueillir comme ça. On veut bien les accueillir, mais ils ne peuvent pas être accueillis au même titre que les autres. Et donc on définit ce qu'on appelle une nationalité algérienne d'origine. Si vous êtes descendant de deux grands-parents nés sur le sol algérien et de statut musulman, alors vous êtes de nationalité algérienne d'origine. Vous vous rappelez peut-être que le statut musulman, c'est cette définition de la population colonisée par les autorités françaises, qui était stigmatisante, hein, qui créait une discrimination parmi la population colonisée. Et ben, ce terme de statut musulman est repris dans la définition de la nationalité algérienne par l'Algérie indépendante. C'est-à-dire qu'on réutilise ça pour dire, bah oui, ceux qui étaient de statut musulman, donc eux, ils sont bien algériens d'origine. Les autres, il faudrait qu'ils fassent une demande quand même. Même s'ils ont combattu avec le FLN, s'ils pouvaient écrire juste une petite lettre disant, est-ce que nous pourrions bénéficier de la nationalité algérienne ? Donc on réutilise les choses même qu'on a combattues. On réutilise les définitions même créées par la colonisation dans la définition de soi. Et puis se pose enfin la question de la nature du régime. Alors, je vais aller très vite là-dessus. Elle se définit très rapidement dans la Constitution comme une république algérienne démocratique et populaire, ce qui vous indique un peu de quel côté de la balance penche l'Algérie, avec assez rapidement l'instauration d'un régime de parti unique. Je dis très rapidement parce que dès le mois de novembre 1962, le Parti communiste algérien est interdit. C'est-à-dire les communistes sont sortis de clandestinité pendant l'été, et leur parti s'est trouvé interdit de nouveau dans les deux mois qui ont suivi. Ça se passe extrêmement rapidement. En même temps, c'est pas un régime qui est stable. C'est un régime dans lequel la crainte du coup d'État est permanente. Hein, le pouvoir de l'armée est très très fort. Il y a des tentatives de coup d'État avant 1965. Il y en a encore après, mais le grand coup d'État, évidemment, c'est celui qui apporte Houari Boumediene au pouvoir en 1965. Et puis c'est un régime dans lequel on connaît un certain nombre d'assassinats, dont certains sont vraisemblablement politiques, peut-être pas tous, mais peut-être tous, on ne sait pas, avec certaines figures qui sont des figures éminentes à l'intérieur du FLN, qui sont des gens qui seraient en mesure de concurrencer la figure de Ben Bella, qui sont assassinés, et en particulier quelqu'un comme Karim Belkacem, qui vraiment fait partie des gens qui sont les plus légitimes à l'intérieur de la révolution algérienne, qui est assassiné en 1970, si ma mémoire est bonne.